10h13 minutes dans une quinzaine de minutes. Louis de Mad Prince Jourdain va être avec nous autres. Il vient de signer une entente avec la UFC. Il a très bien performé dans la série Contender. Il devient le deuxième frère Jourdain à faire son entrée à la UFC. Nick Cloutier, salut.
Salut les gars.
Nick, je trouve ça tellement intéressant comme sujet parce que quand on voit des vedettes arriver générationnelles, ouais. Il faut sauter dessus, il faut tout faire pour les marketer. La Ligue a ça en tête. On parle de Gavin McKenna ce matin.
Et on lance pas le mot générationnel à la légère. Hein?
Non.
Par contre, il s'impose dans le cas de Gavin McKenna. Je parlais récemment avec un contact qui fait de la modélisation statistique. Là, et quand il entrait là, tous les facteurs statistiques dans sa machine, il me disait que Gavin McKenna, c'était la meilleure année pré-repêchage depuis Mario Lemieux.
Ah boy!
Je suis pas en train de dire que c'est le prochain Mario Lemieux, mais on parle de statistiques qui génèrent là, vraiment un engouement monstre. Là. Je pense que c'est à peu près 130 points en moins de 60 matchs l'an passé dans la WHL et ce n'était même pas son année de repêchage, imaginez. Et il y a un changement de paradigme là, sur le plan marketing dans la LNH parce que par le passé, on était plus frileux de mousser des talents individuels. On voulait vendre un sport d'équipe. On était très conservateur dans notre approche. C'est en train de changer. On donne un accès inédit maintenant à Amazon avec les joueurs pour des documentaires. Et là, on vient de conclure un partenariat important. La LNH va réussir à diffuser sur YouTube les débuts de Gavin McKenna dans la NCAA avec Penn State vendredi contre Arizona. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sera dans un ancien amphithéâtre entre guillemets, de la LNH. Ça va être joué au Mullet Arena, Max.
Oh, oui. Aïe, aïe, le fameux Mullet Arena, domicile des défunts Coyotes de l'Arizona. Mais je trouve ça le fun, puis surtout qu'on passe par les médias sociaux, par les plateformes comme YouTube, parce que ce qu'on veut, c'est intéresser des nouveaux marchés, mais des nouveaux clients aussi à la Ligue nationale de hockey, parce que Gavin McKenna, tu sais, pour, mettons, les vieux bonhommes comme Gilbert Delhomme qui regardent le hockey depuis les années 40, comme le disait Oli hier, ou à peu près... Tu sais, des nouveaux joueurs, c'est le fun. Puis on va les aimer, puis on va les apprécier. Mais on veut aller chercher des kids, on veut aller chercher des jeunes joueurs de hockey puis les faire aimer McKenna vite. Là.
Absolument. Tu veux aller chercher aussi la fameuse génération Z. La génération Z, on sait, là, on est très conscient de la réalité, Max. Coupe le câble, a de la misère à regarder un match au complet de bout en bout. Alors, comment on va les rejoindre, justement, sur ces plateformes-là, comme YouTube, qui sont disponibles gratuitement au bout de ton cellulaire en l'espace de quelques clics? C'est comme ça qu'on va rejoindre les jeunes. Maintenant, aussi, McKenna, il va avoir un impact qui transcende la Ligue nationale, Max, avant même d'arriver dans la Ligue nationale, parce que moi, je suis très curieux. Au Thanksgiving américain, il y a beaucoup d'équipes qui vont connaître un mauvais début de saison et qui déjà vont se ranger dans le camp des vendeurs parce que on a une occasion rêvée d'aller chercher ce jeune joueur-là. Et ce qui est différent aussi par rapport aux années passées cette année, c'est que les équipes vont avoir de l'espace sous le plafond salarial.
Ouais.
Alors, ça va être extrêmement intéressant. Gavin McKenna, il a même pas mis un patin dans la LNH et déjà son impact va se faire sentir tôt cette saison.
Il y a un message sur la messagerie texte ou le YouTube Live là, qui m'a fait sourcier. J'ai fait « Hey, je vais poser la question à Nick. » On a dit « joueur générationnel pour Gavin McKenna, on ne l'utilise pas souvent. » Est-ce qu'on s'est trompé dans le cas de Connor Bedard? T'sais, dans la mesure où... Parce que Connor Bedard est un excellent joueur de hockey, mais ça s'est un peu étiolé comme depuis son arrivée. McKenna, là, il a 17 ans, il va avoir 18 le 20 décembre prochain. Est-ce qu'on lui met beaucoup de pression sur les épaules? Est-ce qu'il est meilleur là, que Bedard l'était à ce moment-là?
Moi, je dirais sans aucun doute, c'est un meilleur espoir que... Hey, on s'entend, Bedard, c'était un espoir exceptionnel à l'époque. Là. Mais à mon sens, c'est un meilleur espoir que l'était Connor Bedard. C'est un joueur qui est plus créatif, qui a un ordinateur qui est encore meilleur. Est-ce qu'il a le tir de Connor Bedard? Probablement pas. Connor Bedard a une façon de tirer qui est exceptionnelle là, à travers même la Ligue nationale de hockey.
Ouais.
Mais l'ordinateur, la créativité, le sens du jeu, c'est vraiment unique. Là. Je sais pas si dans la dernière décennie, on a vu une façon de découper la glace et de faire des jeux comme Gavin McKenna.
Gavin McKenna, comme je le disais, va avoir 18 ans. Là, il va s'aligner avec Penn State cette année. Sort de la WHL, sort de gagner justement avec les Tigers de Bessonnette. Une saison de 129 points, 41 buts, 88 mentions d'aide. À quel point son arrivée dans le hockey universitaire américain va changer la vision qu'on a aussi du hockey universitaire américain, selon toi?
Ça va certainement avoir un impact. ça va certainement avoir un impact parce que aussi, ça va donner certaines lettres de noblesse supplémentaires. Bon, on savait que l'hockey américain, ça préparait tellement bien les joueurs pour la LNH, mais Gavin McKenna aurait perdu son temps à faire des tours de glace dans la WHL cette année. Et là, il peut jouer avec Penn State. Son développement va être bien meilleur en passant avec Penn State à jouer contre des adultes et il va avoir un impact encore plus prononcé dans la LNH à sa saison recrue à cause de ça. Et là, les prochains top prospects qui vont avoir vu Gavin McKenna emprunter ce parcours-là, ben forcément, ils vont être inspirés. Ils vont se dire, écoute, OK, est-ce que le parcours de développement parfait pour le joueur canadien, c'est ça? C'est bon, deux, trois années... dans le junior majeur canadien et à mon année de repêchage, bon, je vais dans le gym et je prépare mon corps pour la LNH.
Parce que, tu sais, on l'a vu cet été, l'exode des joueurs du junior canadien vers la NCAA, puis c'est une chose d'avoir un Caden Lindstrom, un Justin Poirier, des gars un peu plus vieux, 18, 19, 20 ans, mais le fait d'avoir mis la main sur Gavin McKenna, qui est un espoir générationnel, et si je me trompe pas, Nick, il y a aussi le deuxième meilleur espoir du prochain repêchage, qui est un défenseur qui jouait dans l'Ouest aussi, lui aussi. Il est parti, exactement, il est parti vers la NCAA. T'envoies un gros message, là, que là, ça niaise pas. Puis ça va être comme ça à chaque année, par coup de centaines de milliers de dollars, d'aller chercher les meilleurs espoirs possibles qu'on a au Canada.
Puis on peut-tu rappeler aussi, les gars, que c'est un jeune garçon qui arrive de Whitehorse au Yukon, qui va faire 700 000 par année pour jouer dans du hockey universitaire?
Je me rappelle, j'avais parlé à ce gars-là au téléphone quand il avait 16 ans, pas un poil sur le menton, et il avait une maturité déjà déconcertante à cet âge-là. Lui, il me racontait, là, il a commencé à jouer au hockey sur... une patinoire dans sa cour arrière. Des fois, ses parents devaient aller le chercher parce que ses doigts étaient gelés et il faisait moins 35.
Ben oui.
Imaginez, c'est un gars complètement qui a grandi complètement dans le nord-ouest du Canada et les gens là-bas devaient se lancer dans des campagnes de financement pour financer ses camps de hockey à l'extérieur du Yukon parce que, bon, lui, il avait tellement de talent, il ne pouvait pas se limiter seulement à jouer au Yukon pour son développement. Alors, à travers des campagnes de socio-financement, on réussissait à financer son développement ailleurs au Canada. C'est fascinant comme histoire. C'est certainement pas une histoire de développement typique là, dans le hockey.
Puis j'ai quasiment l'impression que ça a pu l'aider d'une certaine façon d'avoir ce parcours-là atypique, de passer des heures et des heures à la patinoire extérieure dans sa cour, tout ça. C'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, mais c'est tellement une bonne façon de développer tes habiletés. Moi, je me demande juste, parce que tu sais souvent, quand on parle d'espoir générationnel, souvent, ce sont des centres. Tu sais, Bedard, McDavid, Crosby avant ça, c'était tous des centres. Ouais. Lui, c'est un ailier. Alors, comment est-ce qu'un ailier va être capable de transcender le jeu? Va falloir vraiment qu'il démontre qu'il est hors de tout doute. Tu sais, oui, générationnel, mais pour un ailier d'être considéré comme ça, faut que tu sois une coche au-dessus de tout le monde, mais pas à peu près, là.
Ah, absolument. Et on en parlait de récemment de ces ailiers-là, les gars qui avaient l'impact de joueurs de centre en possession de rondelles. On pense que Ivan Demidov pourrait être ce joueur-là pour les Canadiens. Et il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup dans la LNH. Alors, tu fais bien de le mentionner. La barre est très haute. Là. Pour avoir un impact générationnel, on parle d'un joueur qui doit se hisser dans la conversation des Nikita Kucherov,
Alex Ovechkin,
Andrei Panarin, et c'est ça, et j'en passe. Là. C'est sûr que la barre est très haute si on veut avoir un impact qui est générationnel et on ne joue pas à la position la plus névralgique au hockey.
Alors, à titre d'information, il fait 1 degré présentement à Whitehorse ce matin. On a 10 dans le centre-ville de Montréal et 1 degré à Whitehorse pour vous dire à quel point il fait frette là-bas. Est-ce que on va voir des clubs se déculoter? Est-ce que ça va être flagrant qu'on est en train de l'échapper pour aller chercher McKenna cette année, tu penses?
Ben, je pense que, tu sais, il y avait une espèce d'entreprise de démolition hein, chez les Blackhawks de Chicago, chez les Blackhawks par le passé pour avoir Connor Bedard. On échangeait même des joueurs de notre jeune noyau.
Comme Kirby Dach. Ça avait
surpris bien les observateurs, là. Des joueurs qui avaient un avenir avec l'équipe à long terme. On les échangeait pour s'affaiblir pour Connor Bedard. On avait échangé Kirby Dach à l'époque, alors qu'il faisait partie du jeune noyau de l'équipe. On voulait utiliser la valeur de Kirby Dach pour repêcher quelqu'un d'encore plus jeune et repousser encore un peu plus la reconstruction. Alors ça en dit long. Les équipes sont prêtes vraiment à changer leur plan quand il y a un espoir d'exception de la sorte qui transcende un peu la LNH, le hockey. Les Penguins de Pittsburgh, je vous dirais, les gars, ont amorcé quelque chose de semblable avec Gavin McKinn.
Hey, mais ça, là, puis je suis content que tu en parles parce que c'était ma dernière question. Sidney Crosby, en entrevue, il n'y a pas longtemps, on l'a questionné. Il a dit « I'm here to win, I want to win. Si t'es un joueur professionnel, je vois pas qu'est-ce que tu veux d'autre que de gagner dans la Ligue nationale de hockey. Il y a une vidéo qui sort de lui, la nouvelle série sur Amazon, où est-ce qu'il montre tous les cadres des capitaines qu'il a dans sa salle d'entraînement, qui gagne la Coupe Stanley, puis il laisse un cadre vide pour lui, pour sa prochaine Coupe Stanley. Tu sais, ils ont eu Mario, ils ont eu Sidney.
Ouais.
Imagine si les Pingouins ont Gaven.
Ce serait un peu ridicule pour de vrai, mais c'est très possible parce qu'en ce moment, la seule équipe dans la LNH qui essaie de devenir un peu moins bonne, c'est les Pingouins. Tout le monde essaie de s'améliorer, sauf les Pingouins.
Parfait, mais si on fait ça, est-ce que Crosby reste pour accompagner McKenna dans ses premiers pas?
Comme le mieux était resté avec lui.
Le problème, les gars, c'est que même si les Pingouins finissent dernier, là, à la loterie, ils vont avoir quoi?
Ouais.
10% de chance, c'est pas énorme. Là.
Je sais.
C'est beaucoup plus probable qu'on ne repêche pas Gavin McKenna, finalement. Quand Crosby ne peut pas orienter son plan autour de Gavin McKenna. Et si vous demandez mon avis à moi, là, c'est déjà quelques années de trop sans séries éliminatoires pour Sidney Crosby. Je pense que l'entourage de Sidney Crosby essaye de protéger un peu Crosby contre sa propre loyauté. Il y a eu la sortie de Pat Brisson dernièrement. Je pense qu'on essaye de tirer le bras à Crosby et de faire réaliser. Là. Je sais, là, je veux dire, tu veux être un pingouin à vie, là, mais c'est un scandale que tu ne joues pas en série en ce moment. Alors, au moins, contemple cette option-là et essaie de garder l'esprit un peu plus ouvert à l'approche de la limite. Là.
Oui, et en faisant ça, ce serait le meilleur moyen qu'il aurait d'aider les Pingouins de Pittsburgh pour la suite. Si Crosby, absolument, au retour des Olympiques, lève la main et dit « Hey, sais-tu quoi? OK, c'est beau. Sortez-moi. On va payer la lune. »
Ouais, j'ai lu un texte d'un journaliste de Pittsburgh récemment. On se demandait à Pittsburgh, est-ce qu'on est juste un peu trop bon genre cette saison pour aller chercher McKenna? Et c'est sûr que quand t'as Crosby, t'as cette crainte-là.
Ah ouais.
On va peut-être pas faire les séries, mais est-ce qu'on va être juste assez bon pour ne pas compétitionner non plus pour McKenna et être dans l'espèce de milieu awkward qui t'aide pas à avancer comme équipe? Ça aussi, c'est un enjeu là, pour les Penguins de Pittsburgh.
Ça serait quoi, mettons, selon vous, on va aller à la pause dans deux minutes, là, mais le meilleur et le pire scénario pour Gavin McKenna? La meilleure équipe et la pire équipe?
Les Canadiens de Montréal.
Non, mais là, mettons dans ceux qui ont une chance. Okay, dans ceux qui ont une chance, mettons.
Je me demande, avec des gars comme Hudson, comme Demidoff dans ton noyau, comment tu réussirais à insérer Gavin McKenna dans ta structure salariale? Ce serait incroyable, en tout cas.
Et puis, sur une note plus sérieuse, je pense que je serais obligé d'y aller avec les Sharks de San Jose qui commencent vraiment à accumuler tellement de talent pour de vrai.
Ouais.
Celebrini, ben, t'as Will Smith à la défense, t'as des gars comme Sam Dickinson. C'est Michael Misa qu'on vient juste de repêcher. Si t'es capable d'ajouter un autre attaquant de ce talent-là, juste la combinaison Celebrini-McKenna, pour moi, ce serait absolument incroyable.
Oli, la LNH serait folle de joie si ça se concrétise. Imaginez.
Ouais, c'est sûr.
Ça sauverait la franchise.
C'est de faire grandir le hockey dans ces marchés-là qui sont pas traditionnels de hockey. Alors, imagine à San Jose là, les perspectives d'avenir si Gavin McKenna débarque là-bas. Le marché de hockey peut croître exponentiellement là-bas.
OK, et le pire scénario, et pourquoi Buffalo?
Tu m'enlèves les mots de la bouche. Je pense qu'on peut s'arrêter là.
Hey, ça serait chien, ça.
Ça serait vraiment chien.
Parce que, réellement, Buffalo, ça s'en va nulle part. Si j'avais à donner une autre réponse, je dirais peut-être les Prédateurs de Nashville, parce que c'est un autre club qui s'en va un peu nulle part présentement. Puis là, Gavin McKenna serait comme un peu le seul jeune joueur de talent à débarquer là, mais... Hey là là, imagine Buffalo s'ils mettent la main sur McKenna, là sont mieux d'être bons. Là c'est mieux d'être la bonne foi.
Ouais, ça serait spécial. J'ai bien hâte de voir. Sur le message texte, les gens nous envoient leur meilleur et leur pire scénario. Nick, un gros merci de ton temps ce matin. On te lit sur tvsport.ca.
Yes, merci les gars. Excuse-moi, j'ai perdu un peu le son vers la fin.
Non, pas sûr. Ça arrive. Salut. Va charger tes AirPods. Nicolas Cloutier de TVA Sport, vous pouvez le lire. J'adore ce gars-là. Il est tellement bon. Puis j'ai hâte de voir ça, ce premier match-là de Gavin McKenna, justement, live sur YouTube.